on va poursuivre. La dernière fois, nous étions arrêtés au but de la discipline dans l'Église. Pourquoi faut-il une discipline dans l'Église ? On avait essayé d'expliquer un petit peu comment se déclinaient les différents buts. Et rappelez-vous les buts qu'on avait donnés. Le premier but, c'est que la personne qui s'égare puisse revenir au Seigneur, puisse comprendre son égarement. Donc le but premier, c'est de favoriser la repentance et le changement de vie de la personne concernée. Donc la discipline dans l'Église n'a jamais un but d'humiliation, un but de destruction, un but de mettre les gens mal à l'aise, de les stigmatiser. Le premier but, c'est de faire un effet électrochoc pour que quelqu'un qui est complètement en train de dérailler se dise « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» et puisse se dire « Il faut que je revienne à la parole de Dieu. » On avait dit aussi qu'un des buts, c'est d'éviter la normalisation et la contamination au travers du fait que, voilà, quand on banalise un comportement, à un moment donné, tout le monde trouve ça normal. Et donc, à un moment donné, ça contamine les autres et ça met les autres dans une position où ils peuvent aussi se retrouver à se dire, bah, finalement, si pour un tel ça a été OK, bah, pourquoi pas. Et donc, ça fait reculer la norme. En criminologie, on appelle ça l'estompement de la norme. Donc l'estompement de la norme, c'est le principe selon lequel, dans un groupe social, une norme peut changer avec le temps. Et donc, vous pouvez avoir une norme à l'intérieur de vous, et puis les années passent, à force de voir une autre norme présente, vous pouvez finalement admettre cette nouvelle norme. Donc par exemple, les policiers qui sont en infiltration, parce que ce n'est pas que dans les films, ça existe vraiment, il y a vraiment des policiers qui s'infiltrent parfois dans des organisations criminelles, eh bien, il y a des études scientifiques qui ont montré qu'avec le temps, à force de penser avec des criminels, d'être avec des criminels, de fonctionner dans des groupes criminels, eh bien, leur norme sociale, leur norme à eux, leur norme mentale commence à changer, à s'adapter au groupe dans lequel ils sont. Et donc, dans l'Église, c'est la même chose. On peut aussi avoir un estompement de la norme progressif au travers de l'acceptation de certains comportements. Il se passe un truc, on dit rien. Il se passe un autre machin, on dit rien. Et puis, petit à petit, ça se normalise et on commence à accepter cela. Alors, on avait vu aussi que la discipline dans l'Église a un but de nous rappeler à tous l'importance de la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, comme dit l'Écriture. Et la discipline dans l'Église vise aussi à éviter, comme on l'a dit, l'infection de l'ensemble du corps. Donc, veiller à la sanctification et aux infections. Donc, on a rappelé ce texte. Fortifiez donc les mains languissantes et vos genoux affaiblis. Voyez comment on commence. Le but est d'abord de fortifier les gens en difficulté. Fortifiez les mains languissantes et vos genoux affléchis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Suivez avec vos pieds des voies droites. La discipline dans l'Église nous montre qu'est-ce que c'est de marcher droitement devant Dieu. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, un peu de péché, un peu de déviation, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, ce qui n'y est ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Donc vous voyez l'importance de veiller à la protection, afin que nous n'ayons pas des racines d'amertume, des racines de péché qui infectent plusieurs et qui nous mettent en difficulté. Autre but, on ne l'a pas vu la dernière fois, autre but de la discipline dans l'Église, c'est d'éviter la propagation de fausses doctrines. Vous couriez si bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. On l'avait dit, dans la discipline dans l'Église, il y a deux grands aspects. Il y a la discipline morale, qui concerne les comportements des gens, et il y a la discipline doctrinale qui concerne l'enseignement des Écritures. La discipline de l'Église doit aussi s'appliquer pour les situations où quelqu'un ou une situation nous ferait progressivement sortir du juste enseignement de la parole de Dieu. Alors, vous voyez ici qu'on dit « un peu de levain fait lever toute la pâte », ça signifie que dans l'enseignement de la parole de Dieu, un peu d'égarement sur le plan doctrinal, un peu d'égarement sur le plan de comment on doit comprendre le texte peut avoir de grands effets et de grands impacts. Alors je l'avais dit, un peu de levain fait lever toute la pâte, ça peut avoir, on peut l'appliquer à une personne, de dire, mais voilà, un comportement particulier, problématique, peut s'affecter et affecter les autres, mais aussi un petit enseignement erroné. Et je sais que vous autres, qui fréquentez des églises évangéliques, quel mot je vais utiliser pour vous qualifier, je ne sais pas comment dire. Parce que si je trouve un mauvais mot, vous allez vous sentir... qu'est-ce que je vais dire, classique. Ça va, classique. C'est comme la musique classique, c'est bien. classique. Vous n'avez peut-être pas conscience de ça parce que, c'est souvent des églises où il y a quand même une certaine veille et des églises pas trop extravagantes sur grand-chose. Mais il faut savoir que le monde chrétien est affecté actuellement d'énormément d'erreurs doctrinales, des foleries qu'on raconte aux gens, des foleries que les gens écoutent, mais des interprétations de versets à l'envers, des explications qui n'ont ni queue ni tête, et les gens sont là et disent amen. Et parfois, même il y a des églises, parce qu'ici, vous ne savez pas ça, mais il y a des pays où il peut y avoir 3000 personnes dans une église, le prédicateur dit un truc qui est complètement contraire aux Écritures, et tout le monde dit amen. Hein, et donc, c'est très dangereux, on doit être très vigilant à ça. Vous connaissez l'évangile de prospérité? Bon, ça, c'est quand même le gros ennemi, tout le monde le connaît, tout le monde en parle. L'évangile selon lequel, si tu es chrétien, tu dois nécessairement être riche, avoir beaucoup de choses. Ben voilà, c'est un exemple. Mais il y a des choses beaucoup plus pernicieuses. Je parlais d'une rencontre qu'on avait avec un pasteur qui, il le disait pas comme ça, mais finalement, la divinité de Jésus était quelque chose d'un peu mis entre parenthèses, d'un peu. Et donc, on discute sur certains points doctrinaux. Alors, ça peut être sur des points doctrinaux fondamentaux, ça peut être aussi sur des points de moralité, sur comment est-ce qu'un chrétien est appelé à vivre. Et je voudrais dire aussi que parfois, il y a certains sujets sur lesquels il faut se dire que il y a une attention à donner, parce qu'un peu de mauvais enseignement fait lever toute la pâte. Et donc, vous êtes là dans une réunion de jeunes ou dans une réunion de maison, et puis, on parle, on explique des trucs, et puis on dit oui, mais bon, ça, c'est pas grave, ça, c'est. Ou alors, et donc, on interprète les textes à la légère, on explique mal les choses, on n'est pas précis dans ce qu'on dit, et petit à petit, l'erreur doctrinale se répand. On doit être très attentif à cela. Et c'est pour ça que dans l'Église, il doit y avoir une veille doctrinale, c'est-à-dire un mécanisme des responsables de l'Église qui veille à ce que la parole de Dieu soit justement prêchée. La veille doctrinale s'exerce avant tout par l'assemblée locale, qui, tels les chrétiens de Béret, sont censés vérifier que ce qu'on leur dit est biblique. Alors vous, ça vous fait bien, ça. Vous êtes des snipers. Ça, c'est le niveau de base. Et puis, il y a un niveau avancé, c'est le niveau, évidemment, des responsables de l'Église qui sont censés être autorité doctrinale dans la communauté et qui sont censés veiller à ce qui est dit, à ce qui est enseigné dans la communauté, de sorte à ce qu'on soit certain que ce qu'on dit est correct. Alors, correct, ça doit dire ça doit être fidèle, mais aussi ça doit être bien expliqué, bien présenté, sans exagération. Voilà. Alors, j'ai des dizaines d'exemples, mais je n'ai pas le temps d'expliquer ici, mais vraiment, c'est quelque chose de très important. Autre but de la discipline dans l'Église, c'est en effet que les chrétiens puissent être cohérents. Voyez ce verset de Romains 2, 23 à 24. « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. » Et il termine, « Car le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. » Vous voyez un petit peu ce que dit le texte. Toi qui es là et qui parle de Dieu, tu parles de la parole de Dieu, tu parles de la loi de Dieu, et tu vis tout le contraire. Conséquence quoi? Le nom de Dieu est blasphémé dans les nations. Le nom de Dieu est blasphémé dans les nations. C'est quelque part... Le fait d'être des gens qui se disent annoncer la parole de Dieu et qui ont une vie qui est complètement à l'inverse, ça déshonore le nom de Dieu. Donc la discipline dans l'Église vient aussi pour ça, pour éviter qu'au travers de nos comportements, nous n'ayons comme conséquence de déshonorer le nom de Dieu. Parce que les gens nous voient vivre et se disent « c'est ça un chrétien ?» Ah ben, j'en veux pas. C'est ça un chrétien, c'est ça le camarade qui parle toujours de la Bible et tout ça, et puis derrière qui fait le contraire, on n'en veut pas. Donc ça, c'est aussi le but de la discipline dans l'Église. L'Église ne doit pas accepter que des gens qui ont certains comportements puissent se dire chrétiens. C'est ça la discipline dans l'Église. C'est dire à un moment donné, dès lors que tu mets une étiquette, que tu te réclames chrétien, que tu confesses ta foi, tu dois vivre en cohérence avec la foi que tu professes. Vous connaissez le secret ultime, si vous le connaissez, mais je peux vous le donner si vous avez vraiment envie. Le secret ultime pour que des enfants de chrétiens haïssent Dieu. C'est quoi le secret ultime pour qu'un enfant de chrétien haïsse Dieu? Vous êtes quelqu'un dimanche et vous êtes tout le contraire chez vous pendant la semaine. Ça, c'est le secret. Vous êtes là le dimanche, vous levez les mains, parfois même vous expliquez des petits versets et tout ça, et puis vous vivez tout le contraire chez vous. C'est le secret pour qu'un enfant haïsse Dieu. Je ne parle pas juste d'être désintéressé, je parle finalement de vomir la foi qu'on nous a enseignée. Parce que Dieu nous appelle à être cohérents. Et je suis appelé, ce que je dis, je suis appelé à le vivre. Alors ça ne veut pas dire que les chrétiens sont appelés à être parfaits, ça veut dire que les chrétiens sont appelés à veiller sur eux-mêmes pour ne pas donner de l'évangile un mauvais message. Et ils le font pourquoi ? Pour préserver l'honneur de Dieu. Le jour où je commence à me battre dans la rue, dès lors que les gens savent que je suis chrétien, je déshonore Dieu au travers de mon comportement. Donc c'est aussi ça le but, la discipline dans l'Église. Donc le but c'est de glorifier Dieu, le péché profane le nom de Dieu, il salit la réputation de Dieu. Une exigence de cohérence, la discipline dans l'Église manifeste la volonté de cohérence des croyants vis-à-vis de la parole de Dieu. Les chrétiens sont appelés à prêcher la sainteté et à vivre la sainteté. Les chrétiens sont appelés à prêcher l'amour et à vivre l'amour. Les chrétiens sont appelés à prêcher l'intégrité et à vivre l'intégrité. Donc la discipline dans l'Église s'applique tant pour la sainteté, nous devons avoir une vie droite devant Dieu, mais aussi pour l'amour. La discipline dans l'Église, elle peut aussi intervenir dans des situations où, à un moment donné, on laisse la haine devenir la norme dans la vie du chrétien ou dans la vie de l'Église. La discipline dans l'Église peut aussi intervenir pour cela. Vous avez parfois dans des églises des attitudes comme ça. C'est pas juste dans les églises, c'est un peu partout. Alors c'est un peu partout, mais dans les églises c'est intolérable. C'est parfois dans certaines églises des gens qui deviennent un peu des boucs émissaires, c'est-à-dire que il y a un groupe de personnes qui se lient contre une même personne, qui la critique, qui la haïssent, qui se comporte mal envers elle. C'est des choses qu'il y a dans nos églises. La discipline d'église peut aussi réagir par rapport à ça, pour que l'amour reste la norme. Quelqu'un qui va insulter Eric à la fin du culte, devant tout le monde, c'est intolérable. On ne peut pas l'accepter. Quelqu'un qui va humilier quelqu'un d'autre devant tout le monde, c'est intolérable. On ne peut pas l'accepter. Parce que dans l'Église, l'amour doit être la norme. L'amour doit être la norme et la discipline dans l'Église veille là-dessus. Donc l'absence de discipline dans l'Église met en danger la cohérence spirituelle de l'Église et donc le reflet qu'elle doit être de la gloire de Dieu. Aussi, le but de la discipline dans l'Église, c'est de sauvegarder le témoignage de Christ. Matthieu 5, 13 à 16 dit ceci, vous le connaissez, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc quand les gens voient un chrétien et son comportement, sa vie, ils sont censés rendre gloire à Dieu. Et pas au contraire dire, mais c'est quoi cette foi, c'est quoi ce Dieu, qu'est-ce que c'est ça pour... Au contraire, quand on te voit, quand on pense à toi, quand on pense à ta vie, à tes paroles, à ton comportement, à l'organisation de ton existence, à ta façon de te comporter, on doit dire, oh, gloire à Dieu. C'est ça le sentiment que doit produire la vie du chrétien sur les autres. Et donc, c'est ça aussi le but de la discipline dans l'Église, c'est de sauvegarder le témoignage de Christ. Nous sommes la lumière du monde. Mais si la lumière est elle-même mauvaise, si la lumière est elle-même ténèbre, comment est-ce que nous allons illuminer les autres ? Nous sommes le sel de la terre, mais si le sel de la terre perd sa saveur, si nous perdons notre pureté, si nous perdons notre intégrité, notre amour, notre marche avec Dieu, mais comment nous allons faire pour être le sel de la terre et apporter aux autres ? La discipline de l'Église, elle vient nous rappeler à tous l'importance qu'il y a que nous puissions vivre en cohérence pour pouvoir être pleinement ce que Dieu a prévu que nous soyons avec son esprit en nous. Alors la procédure de discipline dans l'Église, je vais essayer de ne pas durer trop longtemps là-dessus, mais c'est quand même l'élément le plus important. Alors voilà, je sais que c'est les aspects les plus désagréables de la Bible. Je sais que ce sont des aspects qu'on n'aime pas parler, mais c'est dans l'Évangile. Hein. C'est dans l'Évangile. Hein. C'est même pas... voilà, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Premièrement, qui est soumis à la discipline de l'Église ? Je l'avais dit les autres fois, toutes les personnes qui sont des chrétiens baptisés et communiants dans une Église locale se soumettent volontairement à la discipline de l'Église locale. En pratique, ce sont les membres, mais également les communiants réguliers non membres. Il y a certaines églises dans lesquelles il n'y a pas de système de membres. Et là, eh bien, ils ont ce qu'on appelle l'assemblée des communiants. L'assemblée des communiants, ce sont toutes les personnes qui sont baptisées et qui communient au repas du Seigneur. Eh bien, l'assemblée des communiants représente toutes les personnes qui se soumettent automatiquement à la discipline de leur église locale. Le baptême est le signe officiel de l'intégration dans l'église, dans le corps de Christ. Il confesse notre foi, il confesse notre repentance, mais aussi notre insertion dans l'Église. Donc lorsque je suis baptisé, je signifie officiellement mon appartenance à l'Église de Jésus-Christ. Et puis la Sainte-Cène, comme on l'a dit tout à l'heure, est le signe de l'unité des chrétiens, des croyants. Nous sommes membres les uns des autres, comme dit l'Écriture. Et donc, les deux sacrements sont la référence de qui se soumet à la discipline de l'Église locale. Ce sont ceux qui ont confessé leur foi en Jésus-Christ et qui vivent en unité avec la communauté locale. Ceux-là sont soumis à la discipline de leur Église locale. Et pour ceux qui ne sont ni baptisés ni membres, petite parenthèse, ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui ne sont pas membres, n'ont pas fait confession de foi en Jésus-Christ, ils n'ont pas manifester leur appartenance à Christ, dès lors, ils ne peuvent pas être sous la discipline de l'Église. On ne peut pas considérer que la discipline s'applique sur eux. Cependant, il y a des situations dans lesquelles eux aussi peuvent se retrouver concernés par la discipline de l'Église. Alors évidemment, pas de la même façon, pas pour les mêmes raisons, mais il y a quand même aussi une possibilité que l'Église intervienne. Par exemple, des comportements qui seraient contraires à l'ordre dans l'Église. Je donnais l'exemple de quelqu'un qui viendrait insulter Eric à la fin du culte. On ne va pas commencer à dire « oui, mais il n'était pas membre, oui, mais il n'était pas ceci, oui, ben, non ». Voilà, ça fait partie de l'ordre dans l'Église, je pourrais dire c'est l'ordre dans la société même. Dans la société, tout le monde ne fait pas n'importe quoi. C'est la même chose dans l'église locale. Des attitudes aussi qui peuvent mettre en péril leur croissance spirituelle. Les non-membres, les non-baptisés, sont aussi des gens qui sont souvent des croyants en devenir. Et donc on ne peut pas non plus dire « ah ben ils ne sont pas membres » ou « ils ne sont pas baptisés ». Non, on doit aussi pouvoir leur parler, les exhorter, les reprendre parfois, pour qu'ils puissent ne pas être bloqués dans leur croissance spirituelle et qu'ils puissent aussi comprendre les principes de la parole de Dieu. Et donc, quelque part, c'est une parenthèse pour dire on est bien d'accord que ce sont les baptisés communiants, mais il y en a aussi qui ne sont ni baptisés ni communiants, mais qui ont quand même besoin aussi qu'on puisse les accompagner, veiller sur eux, les reprendre et les accompagner. Donc, l'Église n'est pas moins responsable envers les non-baptisés. Elle ne dispose cependant pas des mêmes pouvoirs de discipline envers eux. Cependant, et ça c'est ce que j'ai dit la dernière fois, et je le rappelle encore ici, très important, on peut, alors ce n'est pas la logique biblique, mais il peut y avoir des questions de temps qui font ça, on peut être authentiquement converti et ne pas encore être baptisé. Je dis bien ne pas encore, hein, puisque vous savez que le baptême n'est pas une option. C'est la suite de la foi. Celui qui croit se fait baptiser. Il peut arriver qu'il y ait un temps entre les deux et qu'on soit authentiquement converti, qu'on ait réellement reçu Jésus dans son cœur, qu'on ait vraiment cru à ce qu'il a fait à la croix pour nous, qu'on croit de tout cœur et qu'on ne soit pas encore baptisé. Eh bien, dans cette situation-là, on sera réceptif à la discipline de l'Église. Quelqu'un qui est vraiment converti, qui appartient vraiment à Jésus, même s'il n'est pas encore baptisé, il va comprendre lorsqu'on va lui faire certaines remarques, parce qu'au fond de son cœur, lui-même, son péché le blesse. La nouvelle naissance nous rend sensibles au péché. Le non-converti, ça ne lui fait rien. Le non-converti, vous lui parlez, c'est comme si ça n'a pas de sens. Le converti, celui qui appartient à Jésus, quand on lui dit « Mais frère, qu'est-ce que tu viens de faire ?» Ça lui fait tilt. Même s'il n'est pas baptisé, à un moment donné, il va comprendre et il va recevoir cela. Et donc, c'est aussi important de se dire que c'est l'intérêt de pouvoir prendre soin d'eux et de pouvoir les accompagner pour qu'ils puissent avancer avec le Seigneur. Concernant la procédure, on va la voir rapidement. Et je dis déjà ici que, en voyant tout ça, je me dis, c'est incroyable à quel point on ne fait que survoler. Hein. On pourrait en parler pendant une année, deux années complètes, tellement il y a des choses à dire. Mais voilà, ça ne va pas le faire. Mais c'est pour dire que soyons conscients qu'on ne fait que survoler. Concernant la procédure de la discipline dans l'Église, Matthieu 18 nous donne des renseignements clairs. Alors n'hésitez pas, pendant qu'on est là, si vous avez votre Bible, à prendre Matthieu 18. Comme ça, vous allez suivre les étapes pendant que je vais les présenter. Matthieu 18 est clair et complet et on va passer en revue les différentes étapes en montrant aussi les variations qu'il peut y avoir. Donc, Matthieu 18, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et toi seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux témoins ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors nous avons donc quatre étapes qui nous sont données par Matthieu chapitre 18. La première étape, c'est l'étape de la démarche de réconciliation personnelle. On va aller parler à la personne qui a péché contre nous, ça peut être dans le cadre d'un conflit, ou la personne qui a péché, c'est-à-dire la personne dont on sait qu'elle s'est égarée de la parole de Dieu, je dirais gravement. C'est la première étape. La deuxième étape, si la première étape n'a pas donné de fruits, la personne qui a été trouvée, la personne concernée, va impliquer deux autres personnes, enfin deux ou trois autres personnes, deux ou trois témoins, et va les impliquer avec dans la situation. La troisième étape, si l'étape 2 n'a pas fonctionné, c'est que la situation va être présentée à l'Église. Et la quatrième étape, si cela n'a pas non plus eu d'écho, c'est que la personne va être exclue de l'Église et exclue de la communion des enfants de Dieu. Première étape, c'est l'interpellation personnelle. Si ton frère a péché, reprends-le entre toi et toi seul, entre lui et toi seul. Première étape. On voit que du coup, on nous rappelle ici le principe qu'on a expliqué, chaque frère est responsable de ses frères. Vous avez vu qu'on ne te dit pas, si ton frère a péché, appelle quelqu'un et demande-lui de, si ton frère a péché, dis-le à un ancien, si ton frère a péché, toi, tes frères, t'es son frère en Christ, tu l'aimes, eh bien toi, va lui parler. Tu ne dois pas déléguer ça à un autre, tu ne dois pas déléguer ça à une personne particulière, c'est toi personnellement qui va aller lui parler. Nous sommes donc responsables les uns des autres. Le texte nous montre clairement, et c'est important à noter, nous montre clairement que la volonté de Dieu, c'est de travailler avec le maximum de discrétion possible. On commence entre ton frère et toi. Le but est d'essayer que les choses se passent avec le plus de discrétion possible en évitant l'humiliation, la stigmatisation de la personne. Voyez comme Dieu est délicat. Si ton frère a péché, si tu sais quelque chose sur ton frère, si tu as vu quelque chose de ton frère, ne le mets pas sur Facebook. Ne le mets pas au milieu de la place publique. Va le voir entre toi et toi seul. Trouve un endroit, un petit coin, téléphone-lui, vois-le et dis-lui ce qui se passe. Dis-lui ce qui se passe. Dis-lui ce que tu as à lui dire entre toi et toi seul. Évite que ça se propage. Le but est quoi ? C'est d'éviter la propagation de bruit, comme on a beaucoup dans nos églises, de bruit sur un tel, de bruit sur un tel, de bruit sur une telle. C'est d'éviter les bruits et c'est aussi d'éviter une scandalisation inutile. Si vous me trouvez à la place de la digue, un jour, alcoolisé, en train de danser en cinglé, et que vous me voyez et que vous êtes tout seul, quel est l'intérêt que toute l'Église soit au courant ? Oui, les autres, ils peuvent savoir par curiosité, mais le plus intéressant, c'est que vous venez me le dire à moi, pour que ça ne scandalise pas les autres inutilement. Si les autres l'ont vu, ils l'ont vu, il faut avoir la régler ça, mais si personne ne l'a vu, si vous êtes le... Ben, évitons. Évitons la scandalisation, évitons que d'autres commencent à se poser des questions, à tomber, à s'énerver. Essayons. Voilà. Essaye de voir avec ton frère, occupe-toi avec ton frère, dis-lui un à un, et essayez de régler ça à deux. Voyez que Dieu ne veut pas que le pécheur soit rejeté, qu'il soit humilié, qu'il soit stigmatisé. Il veut au contraire que le pécheur soit aimé, soit soutenu. Principe de base, tout ce qui n'édifie pas doit être gardé dans la discrétion. Ça, c'est la première étape. Va voir ton frère, toi et toi seul. La deuxième étape, si ton frère ne t'écoute pas, si ton frère te dit « écoute », comme on dit souvent dans nos églises maintenant, parce que c'est notre société, c'est ma vie privée. Ça ne te regarde pas. Si ton frère te dit, ben, ça ne te regarde pas, ou alors si jamais, par exemple, ça peut être aussi un conflit, hein, ça peut être aussi, j'ai prêté de l'argent à Anthony, c'est peu probable. J'ai prêté de l'argent à Anthony, il ne me l'a pas rendu. Ça peut être aussi ça. Je vais voir Anthony, je lui dis, écoute Anthony, enfin, je t'ai prêté de l'argent, enfin, on s'était mis d'accord, c'était pour le 1er octobre, tu ne me l'as toujours pas rendu. Et là, Anthony me dit, de toute façon, ton argent, tu ne le reverras pas. Parce que de toute façon, tu n'es qu'un sale nul et tu ne mérites rien. Voilà. Il parle comme ça parfois. Hein. Non, ce n'est pas vrai. Ben, voilà, j'ai été voir Anthony, ça ne marche pas. Il ne m'écoute pas, il n'écoute pas l'interpellation de son frère. Deuxième étape, je vais aller trouver deux témoins pour qu'ils viennent avec moi parler à Anthony. Donc nous sommes partis à la rue de la Légende Dorée, en petite voiture. Nous arrivons chez Anthony et Coralie, ils sont là, et on va dire à trois, « Bon, moi, je t'ai donné quand même 3000 euros, et je ne les ai toujours pas. » Et donc là, Anthony et Coralie vont réfléchir, ils vont se dire, « Qu'est-ce qu'on fait ? Non, on s'en fiche, va dans le pachy, on ne veut pas de toi, tu ne les auras jamais. » Mais oui. Donc là, ils ne m'écoutent toujours pas. Donc, la deuxième étape, c'est les témoins. Alors, important de noter une chose, le texte dit des témoins, les témoins dont on parle, ce ne sont pas des témoins de la situation. Donc les témoins, ce n'est pas nécessairement des gens qui ont vu donner de l'argent à Anthony. Les témoins, ce sont des gens qui sont témoins de la démarche. Ils sont témoins que j'ai été dire quelque chose à Anthony. Deux ou trois témoins avec qui on vient. Ils pourront donc attester devant l'Église que la discussion a eu lieu. Ils pourront dire, en fait, on a été, on leur a parlé, et en effet, ils ont bien dit, va dans le pachy, on était là, on a observé. Ils l'ont dit. Et donc, ceux-là pourront attester devant l'Église de ce qui s'est passé. Une personne seule ne peut pas se réveiller comme ça et puis dire « Ah oui, Anthony, non ». Non, tu dois venir avec des gens qui ont été témoins que tu as déjà essayé quelque chose et que tu as essayé au maximum que l'affaire ne s'ébruite pas et que les choses se passent dans la paix. Ces témoins donneront également plus de poids à l'interpellation et en cas de présentation dans l'Église, ils seront caution de la situation dont on parle. Ces témoins, évidemment, doivent être des personnes de confiance. Bon, le texte ne le dit pas, mais ça semble tellement évident. Ce n'est pas la pipelette de l'Église qui est tout le temps dans tous les ragots qu'il faut aller appeler pour être le témoin. Bon, la sagesse nous montre clairement qu'il y a quand même une réflexion à avoir. Ce n'est pas non plus un des enfants de l'école du dimanche qui vient comme témoin. Non, on va choisir des gens de confiance. Troisième étape, ils ne m'écoutent pas. C'est s'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. L'Église va être informée de la situation et du refus de repentance de la personne. Donc, il y a une situation qui ne va pas, tu vis dans un péché manifeste, un péché public. L'Église va se rassembler et va dire à la personne, écoute, la parole de Dieu nous dit ceci, on a déjà essayé, on a des témoins qui ont essayé d'aller chez toi et de te parler, et tu n'as pas accepté. Ici, quand on parle de l'Église, c'est justement l'ensemble des baptisés et des communiants. Ici, quand on parle de l'Église, ce n'est pas le culte public. Donc ça n'a jamais lieu en culte public. Ça va avoir lieu dans l'assemblée de ceux qui sont membres de l'Église. Et la situation sera expliquée encore avec l'espoir que la personne change. L'idée, c'est de se dire, on va lui dire devant tout le monde, là, il va quand même tilter qu'il doit me rendre l'argent. Et donc là, l'ensemble de l'Église va être d'accord. En fait, il faut comprendre que dans cette procédure-là, on parle de situations dans lesquelles l'Église est unanime. Il n'y a pas de discussion. Quand on parle de péché dans ces situations-là, c'est des péchés qui sont tellement gros qu'il n'y a personne qui va dire « oui, mais c'est… » Non, tout le monde est OK. Hein, donc, je vous donnais l'exemple de Patrick, qui n'est pas là aujourd'hui, qui serait voyant et qui lirait dans des boules de cristal. Tout le monde sait que c'est contraire à la parole de Dieu. Tout le monde le sait. Donc, l'Église va être unanime à dire « écoute, Patrick, là, tu fais n'importe quoi. » D'accord ? Et donc, on va encore essayer de ramener le frère, on va le confronter fermement à son comportement en espérant que devant l'Église, il va se repentir, il va se dire « non, là vraiment, je suis désolé Seigneur, je te demande pardon, j'ai fait n'importe quoi. » Il peut aussi ne pas accepter cette interpellation. Alors là, dernière étape, s'il refuse de t'écouter, d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. En cas de non-repentance, l'Église prononcera une excommunication de la personne et dira à la personne « tu n'es plus membre des nôtres à cause de ce comportement que tu as eu ». Donc le membre est retranché de l'Assemblée, il n'est plus un frère, il ne porte plus les signes d'une personne qui est née de nouveau. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire « tu nous donnes les signes de quelqu'un qui n'a pas été touché par la grâce de Dieu, qui n'est pas né de nouveau. Ton comportement nous dit que tu n'es pas né de nouveau ». Ça ne veut pas dire que tu ne l'es pas, mais ça veut dire que là, maintenant, nous, ce qu'on constate, c'est que l'œuvre de la grâce n'a pas été faite dans ton cœur, puisque tu persévères publiquement, volontairement, dans un péché, dans une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu. Rappelez-vous que le chrétien n'est pas parfait, mais le chrétien est attristé par son péché. C'est ça. Le chrétien, quand on met le doigt sur son péché, « oh Seigneur, ça me fait mal au cœur ». Le non-chrétien, bon. Et donc, on va dire aux chrétiens, on va dire à cette personne-là, tu n'es plus membre de l'Église parce que ton comportement est inverse avec celui que devrait être celui d'un enfant de Dieu. Alors, je rappelle 1 Corinthiens 5, 11 à 13, qui explique clairement qu'on ne parle pas ici de toute personne, on parle d'un chrétien, de quelqu'un qui se dit chrétien et qui vit à l'inverse. 1 Corinthiens 5, 11 à 13, c'est un verset important. « Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère, donc qui dit qu'il est frère, être impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors ? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. » Donc on ne te dit pas de juger les gens qui ne sont pas chrétiens, c'est de juger les gens qui sont chrétiens, mais qui ont une vie inverse à leur confession de foi. Et donc pour eux, l'Église doit se prononcer et le texte dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». Ne laissez pas le mal devenir une norme et devenir quelque chose de correct au milieu de vous, vous devez réagir. Ôtez le méchant du milieu de vous, comme je vous dis, ça ne vous choque pas. Ça ne vous choque pas. Le gars qui est avec sa Kalachnikov à Anderlecht en train de tirer sur la population, vous allez l'ôter du milieu de vous. vous allez le mettre en prison. Vous n'allez pas dire, oh, ben, c'est pas grave. Non. Donc, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est d'éviter d'accepter une situation qui est contraire à la parole de Dieu. Et vous voyez comment il est nommé, ôter le méchant. C'est-à-dire que c'est dans le sens, celui qui est fermement, qui est de façon obstinée, contraire à ce que Dieu veut. Le frère est donc retranché de l'Église. L'Église n'entretiendra donc plus de communion fraternelle avec lui. Alors voilà une phrase, je sais que c'est choquant, hein, j'assume. Hein, j'assume. C'est un pasteur qui écrit ceci. L'isolement qu'il vit est un petit avant-goût de l'isolement que les pécheurs non repentants subiront en enfer. En d'autres termes, la décision est censée dire à celui qui en est le réceptionnaire, là je suis vraiment loin. Là je suis vraiment loin, je suis exclu de l'Église et cet isolement déjà lui indique quel est le statut qu'il peut avoir devant Dieu s'il continue dans cette situation. C'est un message clair, dur, fort, mais clair. Cette mesure est encore une tentative de conscientiser la personne et de lui signifier qu'elle doit se repentir. En cas de repentance sincère, la personne sera réadmise dans l'Église par la même procédure. La même Église qui a pris la décision prendra la décision inverse et dira, voilà, au regard de ta repentance, au regard de, voilà, tu peux pleinement te considérer comme étant membre des nôtres et on oublie ça et on te pardonne et que la grâce de Dieu soit avec toi. Mais l'exclusion fait aussi partie des décisions qui peuvent être prises. Je rappelle une chose importante, parce qu'il faut quand même ne pas l'oublier. Lorsque l'Église excommunie quelqu'un, elle le considère comme un païen. C'est plus un frère, c'est un païen. Mais que dit la Bible sur les relations entre le chrétien et les païens ? C'est que les chrétiens doivent aimer les païens, même les ennemis. Donc ça veut pas dire qu'une fois qu'il n'est plus frère, on ne doit pas l'aimer. Ça veut dire qu'on ne va plus lui accorder les mêmes privilèges de celui qui est frère et qui est de la communion fraternelle. Mais il peut être aimé, mais comme un païen, pas comme un frère, pas comme quelqu'un qui est au bénéfice de la même grâce que toi. C'est le point suivant. C'est, alors, si tu veux, le truc, c'est que le texte n'implique pas clairement les responsables dans le texte de Matthieu 18. Dans les autres textes, notamment les textes des Épîtres, là, on a l'implication. Et donc, justement, je vais y venir. Donc, je commence en disant... Ah oui, voilà, mais on y est, justement. Le texte met en évidence l'importance de chaque membre de l'Église. Donc, l'Église est faite de tous les membres de la communauté. Donc, vous voyez que si on te dit, si il n'écoute pas, dis-le à l'Église. Donc, dis-le à tout le monde, pas dis-le juste aux responsables. Mais, en effet, où est-ce que les responsables sont impliqués ? C'est entre l'étape 2 et l'étape 3. C'est-à-dire qu'on a deux témoins. Les deux témoins peuvent être n'importe qui. Dans la pratique, soyons d'accord, on va souvent aller demander à des anciens. Je veux dire, si Jean-Pierre vole de l'argent à Francis... Vous n'allez pas réfléchir pendant deux heures à dire ah, qui est-ce que je vais demander. Vous allez dire à Benoît, Gino, venez. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. C'est le contraire. c'est comme par hasard. Francis ne peut pas faire ce genre de choses. Toi, tu peux être filou parfois. Tu peux être un peu filou. Francis n'est jamais filou. Donc, là, si on n'a pas impliqué des anciens à l'étape avant, c'est les anciens qui vont en fait présider au passage vers l'Église. Parce qu'en fait, le texte ne le dit pas, mais dans le contexte de où Jésus parle, ça semble évident. Enfin, dis-le à l'Église. Imaginons, dis-le à l'Église. Qu'est-ce qu'on fait ? On se rassemble, et puis qui dirige la réunion ? Donc, à un moment donné, il va bien falloir que les anciens soient impliqués pour expliquer la situation. Donc, c'est sous-entendu dans le texte, même si ce n'est pas présenté comme ça, quoi. Donc, en fait, les anciens vont présider au processus de décision. Alors, j'ai donné l'exemple, c'est un peu comme dans la société, la cour d'assises, vous connaissez la cour d'assises où on juge les crimes les plus graves. Dans une cour d'assises, c'est un jury populaire qui tranche. Hein, donc vous savez que vous êtes tous susceptibles un jour d'être appelés pour être juré de cour d'assises. Mais il y a des magistrats professionnels qui sont là. Alors, les magistrats ne prennent pas la décision, ils vont laisser le jury populaire décider, mais c'est eux qui vont présider au processus et c'est eux qui vont aussi rédiger le jugement, par exemple. Parce que si on te dit, Gino, que tu es juré dans un procès d'assises, quelqu'un a tué sa femme, tu es juré, on te dit, rédige le jugement. Je sais pas, je suis pas juge, moi. Donc, celui qui n'est pas juriste, il sait pas rédiger un jugement. D'accord? Donc, le magistrat, lui, va écrire le jugement. Donc, dans l'Église, c'est la même chose. Les anciens ne vont pas décider ça tout seuls. Donc, l'excommunication, la plus haute décision, c'est toujours une décision d'Église. Mais, en effet, les anciens vont présenter la situation, ils vont expliquer et ils vont présider à la discussion. Donc, ils vont coordonner le processus, mais l'Église devra avoir son mot à dire. En général, l'Église ne va rien dire. L'Église ne va rien dire. Il est voyant, il a des boules de cristal, il a des annonces dans le journal en disant « Venez, je vais vous dire votre avenir ». Qu'est-ce que vous voulez que l'Église dise? L'Église ne va rien dire, l'Église va dire « Voilà, ça ne va pas ». Donc, c'est un peu l'idée. Donc, voilà, c'était là qu'on arrivait. Bon, je vais finir. Hein. En plus, vous devez aller manger. Je vais me dépêcher. Ça va? Je vais essayer de me dépêcher. Mais voilà. Je termine. Les anciens vont diriger le processus. Dans la pratique, les anciens, les responsables ont la charge du soin des âmes. Aider, soutenir, accompagner, reprendre, expliquer la parole, accompagner. Et ils seront donc en position de faire tout pour qu'on n'en arrive pas là. Les anciens, en fait, doivent arriver beaucoup plus tôt. Théoriquement, dès que le chrétien est en difficulté, ils vont essayer de faire tout pour qu'on n'en arrive pas là. Pour éviter tout dérapage. Donc, ils pourront prendre des mesures de discipline à visée de soins spirituels. Donc, ça, ce sont les mesures de discipline internes et qui ont pour but le soin spirituel. Par exemple, requérir certaines mesures de vie ou un suivi pastoral. Vous êtes dans une situation de vie, je ne sais pas quel exemple donner, vous êtes dans une situation de vie où, voilà, ça ne va pas, ça ne c'est pas correct. Mais le pasteur ou les anciens vont dire, écoute, voilà, ça va pas, il faut que tu revoies tel élément, parce que ça ne fonctionne pas, ça ne c'est pas conforme à la parole de Dieu. Et bon, ben voilà, on va se voir régulièrement pour prier ensemble. Quand la personne est réceptive, voilà, on a bien compris, parce que dans le péché, parfois, on n'est pas volontaire, parfois. Hein, donc, on a bien compris, tu es en difficulté, on va t'accompagner, on va te suivre, on va te soutenir. Ça, c'est ce qu'on peut faire pour éviter d'en arriver là. Autre chose, de façon intime, le pasteur ou les anciens peuvent aussi conseiller ou exiger l'abstention de la scène. C'est ce qu'on fait souvent. Des situations, parfois, moi je dis à quelqu'un, ne la prends pas parce que tu vois bien, tu sens bien que ta situation n'est pas trop claire. Ce n'est pas un péché clairement, mais peut-être que c'est mieux de t'abstenir pour l'instant. D'accord ? Donc là, ça peut être un conseil ou ça peut être une exigence, de dire écoute, ta situation fait que là, maintenant, tu ne peux pas la prendre. Donc là, voilà. Ça, c'est ce qu'on peut faire avant d'en arriver là. Aussi, ce qui peut être fait avant cela, c'est suspendre de l'exercice d'un ministère. C'est la même chose. Ça peut être quelqu'un qui sert, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est responsable de la couleur ou responsable de je ne sais pas quoi. Voilà, dans la situation dans laquelle tu es, pour l'instant, hein, tu vas t'abstenir de ton ministère. Donc ça, ce sont des choses qui vont se faire avant, qui vont se faire tout au début du processus. Ça, là, je ne vais pas le lire, je vous le laisserai le lire vous-même. En pratique, les degrés de la discipline de l'Église sont la réprimande personnelle, comme on l'a vu, le 1 à 1, on essaie de régler ça de personne à personne. La deuxième étape, c'est la mise sous discipline pastorale ou du collège d'anciens, c'est-à-dire la discipline qui ne va pas être donnée aux autres, qui ne va pas être connue par les autres, qui va juste se faire entre la personne concernée et les responsables qui peuvent conseiller ou demander de ne plus prendre la Sainte-Seine, de s'abstenir d'être membre, de se suspendre d'un ministère. Et ensuite seulement, si ça ne va pas, ça sera présenté à l'Église et ensuite seulement l'Église pourra décider et prendre une décision d'exclusion si elle le souhaite. Je vous ouvre une petite parenthèse ici en vous parlant de Calvin. Normalement, j'aurais pu beaucoup parler de Calvin dans cette situation-ci, dans cet enseignement-ci, parce qu'il a vraiment fait beaucoup. Mais voyez ce que Calvin disait. Je me laisserai plutôt tuer que de tendre avec cette main les choses saintes de Dieu au compteur condamné. » Alors, c'était des gens qui étaient excommuniés, et Calvin dit « Je préfère me laisser tuer que de leur donner la Sainte Cène. » ça, c'est la base du protestantisme. Hein. Donc, aujourd'hui, c'est pas grave. Je préfère me laisser tuer que de donner les choses saintes à quelqu'un qui vit à l'inverse des Saintes Écritures. Alors, je termine avec deux points. Premier point, la Bible nous parle d'une discipline spéciale pour les anciens. Cette discipline, elle est dans 1 Timothée 5, 19 à 20, ne reçoit point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Une précaution supplémentaire est donnée pour les anciens. Ici, on parlerait de témoins de la situation. Lorsqu'on accuse un ancien, là, on doit impliquer des témoins de la situation. Donc, si vous dites que Jean-Pierre a volé l'argent de Francis, vous allez devoir impliquer des gens qui peuvent être témoins de cela. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut des témoins et que la Bible insiste pour les anciens? Parce que les anciens peuvent être beaucoup plus facilement attaqués que les autres. Et donc, il y a une précaution qui est donnée. Et le deuxième élément qui est donné, c'est aussi que si la faute est avérée, l'ancien, lui, devrait être repris devant tous. C'est-à-dire que lui, il ne bénéficiera pas du processus nécessairement comme il devrait être repris devant tous. Pour donner l'exemple de ce que c'est, ben oui, je suis responsable, je conduis l'église, je dois vivre conformément à ce que j'enseigne. Et donc, là, il y aura une réprimande publique. Et il est écrit « afin que les autres aussi éprouvent de la crainte », afin que les autres anciens se disent « eh oh, on doit bien marcher ». Je termine avec l'autorité de la discipline dans l'Église, Matthieu 18, 18 à 20, Matthieu 16, 18 à 19. Vous verrez cette expression, on vient de la lire. « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel ». La Bible nous montre au travers de ces versets que l'Église a un pouvoir en ce qui concerne la discipline qu'on appelle le pouvoir des clés, le pouvoir d'ouvrir, le pouvoir de fermer, le pouvoir de délier, le pouvoir de lier, le pouvoir d'exclure, le pouvoir d'admettre. Les décisions de l'Église, en conformité avec la parole et le Saint-Esprit, nous montre ce texte, sont entérinées par Dieu, sont entérinées au ciel. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Si tu prends la décision conformément à la parole, évidemment. Si tu es là et que tu disciplines quelqu'un parce qu'il achète de l'eau de Javel, enfin, ça n'a pas de valeur. Si tu es là où tu disciplines quelqu'un parce qu'il n'est pas venu au culte dimanche, ça n'a aucune valeur. Si la décision est conforme à la parole de Dieu, si elle est conduite par le Saint-Esprit, la décision de l'Église locale est ratifiée au ciel. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Si l'Église locale décide maintenant de délier, si elle veut réadmettre la personne, eh bien la réadmission sera inscrite au ciel aussi. Donc l'Église, Dieu a confié à son Église locale une autorité par rapport à la discipline, et cette autorité, c'est une autorité qui a des conséquences spirituelles. On ne fait jamais ces choses-là à la légère, on les fait toujours en tremblant, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de prière, parce que nous savons que quand l'Église de Jésus-Christ s'assemble et décide quelque chose, eh bien, le ciel lui-même enregistre cette décision. Et donc, nous devons être très vigilants par rapport à cela. Amen.